avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et jusqu'à 11h heure de Paris, 9h temps universel, vous commentez l'actualité de votre choix. Vous êtes nombreux à souhaiter réagir sur le Gabon. La Cour constitutionnelle va-t-elle confirmer la réélection contestée d'Ali Bongo? Ou au contraire, Jinping sera-t-il déclaré vainqueur de la présidentielle? En tout cas, c'est aujourd'hui que la Cour doit, en principe, trancher le contentieux électoral. Je dis bien en principe, car hier, la présidente de la Cour a laissé planer le doute. Vous l'avez certainement entendu sur notre antenne. Elle a déclaré « la décision pourrait être rendue à l'audience du 23 septembre, donc d'aujourd'hui, mais elle a ensuite précisé « je vais demander au greffier de communiquer la date exacte aux deux parties ». Autrement dit, un report du verdict n'est pas exclu. On vous donne la parole, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Martial, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous nous appelez de Libreville et vous disiez au Standard vivre cette attente du verdict dans une certaine psychose.
Oui, dans une certaine psychose, doublée d'une très grande inquiétude, en ce sens que depuis la nuit dernière, dans les quartiers de Libreville, l'armée a pris position, notamment les Bérets Rouges, qui ont commencé à fouiller des maisons au quartier derrière l'école normale, ce qui n'est pas du tout normal. Et la Cour constitutionnelle, lorsque elle a ouvert l'audience, n'a pas respecté toute la procédure liée à l'instruction du dossier.
C'est-à-dire ?
Et n'a pas fait prospérer le moyen soulevé par la partie demanderesse, savoir la recomposition.
Soyez précis, Martial. Pardon ? Que reprochez-vous déjà à la Cour constitutionnelle alors qu'elle n'a pas encore rendu son verdict ?
Bon, c'est par rapport à l'instruction du dossier. Elle devrait d'abord faire auditionner les différentes parties, et non seulement auditionner les différentes parties, mais également faire accéder, prospérer la demande, le moyen qui a été soulevé dans la requête par la partie demanderesse, à savoir...
Je ne comprends rien. Martial, excusez-moi, je ne vois pas où vous voulez en venir. Essayez d'avoir des mots ou des termes plus simples. Qu'est-ce que vous reprochez? Parce que c'est bien beau de formuler des critiques, c'est bien beau de dire la Cour constitutionnelle, on connaît d'avance le verdict, mais vous lui reprochez quoi dans la façon de recompter les procès-verbaux, puisque pour l'instant, c'est ce qu'elle a fait. Les 9 juges constitutionnels et des observateurs étrangers, 5 juristes de l'Union africaine, ont hier et avant-hier recompté l'ensemble des procès-verbaux du pays, soit environ 2800 bureaux de vote.
Oui, c'est pas possible. Ce n'était pas ça l'objet de la requête. C'est ce que je suis en train de dire.
Ah bah, soyez clair, alors.
Oui, l'objet de la requête, c'était recompter le bureau de vote par bureau de vote, le vote du Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué, c'est ce qui nous concerne, et non l'ensemble du pays.
Mais où est le problème, Martial? Où est le problème? On recompte tous les PV du pays. Au moins, il y a un souci de transparence. Au moins on connaîtra la réalité des votes sur l'ensemble du pays et pas seulement sur le Haut-Ogooué.
Mais justement, parce que le problème porte sur le Haut-Ogooué au niveau de l'incohérence qui est portée sur les chiffres dans le Haut-Ogooué. C'est ça le vrai problème. Le problème ne se pose pas sur l'ensemble du pays comme voulait le préciser la Cour constitutionnelle en évoquant le fait de la reconventionnalité qui n'existe pas, qui est une aberration juridique, parce que là, la Cour veut se donner des moyens pour essayer de rééquilibrer les chiffres à travers le pays. C'est un moyen.
Ouais. Je rappelle en même temps que le camp d'Ali Bongo accuse son rival, Jinping, d'avoir fraudé dans certaines provinces du pays. Alors ne raccrochez pas, Martial, il y a beaucoup de monde sur le Gabon. Brice, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Bienvenue. Est-ce que déjà, comme Martial, vous remettez en cause la procédure du décompte des procès-verbaux?
Non, je ne remets pas en cause. Ce qui a souvent été fait, c'est un souci de transparence. Il fallait que la Cour procède au recomptage de tous les bureaux de vote de l'ensemble du pays. C'est ce qui a été fait. Je ne vois pas pourquoi on peut récriminer la cause alors qu'elle n'a même pas encore donné son verdict. Je pense que c'est une bonne chose. de recompter les voix, non seulement dans la promesse du Haut-Ogoué, mais dans l'ensemble de tous les bureaux de vote. Mmh. Je ne vois pas où se trouve le mal pour qu'on jette la pierre sur la Cour constitutionnelle.
Martial disait à l'instant que Libreville, en tout cas les grands carrefours, étaient quadrillés par les forces de l'ordre depuis deux jours. C'est une information que vous confirmez, Brice ?
Oui, je confirme, il y a des forces de l'ordre un peu partout, mais ils emmerdent personne, ils font leur boulot, c'est tout, mais il faut pas que les gens les provoquent, tout simplement. Ils font leur boulot, tout simplement, le maintien de l'ordre, ils sont un peu partout, même dans mon quartier, même dans les quartiers sous-intégrés, ils sont perceptibles.
Restez en ligne, et Martial reviendra évidemment sur l'antenne dans un instant. Cédric, bonjour.
Oui, bonjour. Ouais,
vous êtes également à Libreville, on vous écoute. Comment vivez-vous l'attente des résultats définitifs de l'élection présidentielle ?
Écoutez, jusqu'à il y a deux jours, j'avais pas de problème majeur, c'est-à-dire j'étais plus ou moins serein, c'est-à-dire j'avais envie vraiment d'accorder du crédit à la Cour constitutionnelle. Or, depuis deux jours, eu égard à la première intervention de notre tout-puissant ministre de la Communication, qui a, avec des mots à peine voilés, menacé Monsieur Jinping, j'ai le sentiment qu'il se place déjà dans la position de quelqu'un qui saurait d'avance ce que déciderait la Cour constitutionnelle.
Vous faites référence, excusez-moi, vous faites référence aux propos donc d'Alain-Claude Billy Binzé qui disait « Nous n'avons pas l'intention aujourd'hui d'arrêter qui que ce soit, mais si Jinping franchit la ligne rouge et qu'il y a des violences, il répondra personnellement. » Autrement dit, s'il franchit cette ligne, il sera arrêté.
C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi je me demande aussi de Jinping ou des militaires qui franchirait la ligne rouge ou plutôt le gouvernement, parce que à la suite de Monsieur Billy Binzé, il y a Madame le ministre de la Justice qui est passé hier sur vos antennes, qui pareil a convoqué une mission pour des enquêtes sur pour des crimes qu'aurait commis je ne sais pas qui. J'ai envie de je me pose la question de savoir qui ça qui a les armes.
Ouais.
Toutes les manifestations qui sont faites à Libreville, excusez-moi, Monsieur Juan Gomez, les gens marchent les mains levées. Sans armes.
Alors, donc pour vous, cette mise en garde du gouvernement et notamment du porte-parole il y a 48 heures n'est pas justifiée. Brice, à Libreville, vous avez compris, vous, cette conférence de presse des ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et de la Communication qui sont claires hein, et annoncent que le gouvernement et les forces de sécurité n'accepteront aucune tentative de déstabilisation des institutions après la proclamation des résultats définitifs. Ça a été perçu comme une agression par l'opposition. Comment vous réagissez, vous, Brice ?
Jusqu'au 16 octobre, Ali Bongo Ondimba reste le président de la République et son gouvernement doivent maintenir la sécurité des biens et des personnes. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'on doit laisser l'anarchie s'exprimer dans la capitale gabonaise. Il faut bien maintenir l'ordre. Mmh. Hein, les gens marchent les mains levées sans armes, mais en même temps il y a eu des pillages, en même temps il y a eu des cassages, en même temps on a brûlé l'Assemblée nationale. Ce sont ces gens de l'opposition là qui ont brûlé l'Assemblée nationale. En même temps on va passer en train de repartir à recompter le pays et reprendre le développement du pays à zéro. Ce n'est pas du tout normal.
Je redonne la parole à Martial comme promis. Martial, on vous sentait tout à l'heure très en colère contre la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si vous avez manifesté, si vous y êtes parti des manifestants après l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur il y a maintenant trois semaines. Vous seriez prêt, vous, à descendre dans la rue si Jinping, puisqu'on comprend bien que vous êtes un partisan militant de Jinping, si Jinping n'est pas proclamé vainqueur ?
Bon, moi c'est c'est pas nous qui appelons le peuple à manifester. C'est le rejet total d'Ali Bongo qui se manifeste sur le terrain. Et je suis désolé, Brice, qui parle là. Personne n'a prouvé que c'est les militants de Jinping qui ont brûlé l'Assemblée nationale. Il n'a aucune preuve. Il n'a aucune preuve quand il le dit. Il faudrait que les gens se mettent dans la tête que les gens en ont marre du système de Bongo. Bon. Que tout le monde rejette Ali Bongo et c'est pourquoi les gens ont marché.
On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, lundi. On attend le verdict de la Cour dans les prochaines heures. On suivra cela avec nos envoyés spéciaux. On a consacré la moitié de la libre antenne à l'actualité gabonaise. Faut dire que c'est le sujet qui domine vraiment au standard. Mais vous nous appelez également pour réagir sur d'autres sujets qui ne font pas forcément la une, évidemment, de l'actualité internationale, mais qui font la une dans vos pays respectifs. C'est le cas de l'affaire Rasbat. Alors, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose si vous ne vivez pas au Mali. Rasbat, c'est le surnom, le pseudonyme d'un chroniqueur malien qui anime des émissions polémiques. Il a été inculpé pour attentat à la pudeur, outrage à l'autorité et pour tentative de démoraliser l'armée. Depuis 3 semaines, il n'a plus le droit de faire ses émissions radio. En tout cas, ses fans sont nombreux à se mobiliser pour lui. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako et vous souhaitiez nous parler de cette affaire tout en comprenant la motivation des fans, des admirateurs de ce chroniqueur et tout en critiquant ce chroniqueur. Vous dites qu'il va un peu trop loin dans ses critiques.
Oui, c'est-à-dire l'affaire Rasbat est en fait une affaire de droit commun, mais qui, par la force des choses, a été transformée en affaire politico-judiciaire. Moi, j'ai écouté Rasbat, c'était sur la deuxième chaîne africaine, un soir à 3h du matin, et j'étais très content de ses analyses sur la situation au Mali. Mais plus tard, je crois que le jeune homme, parce qu'il est devenu populaire, il a dérapé, il a complètement dérapé, et son langage est devenu insultant, outrageant. Notamment, lorsqu'il a parlé du Premier ministre, il l'a traité de vieux malveillant, de malpropre, de voleur et d'incompétent. Dit comme ça en français, ça ne veut rien, ça ne touche peut-être pas, mais en langue bamanankan de chez nous, c'est une insulte qui est inacceptable, surtout vers une personne âgée de 74 ans. Mais Rasbat a dit.
Mais excusez-moi, Ousmane, excusez-moi de vous interrompre. Je comprends tout à fait. On n'insulte pas un ministre sur son âge, etc., etc. Je comprends. Mais en même temps, on lui reproche aussi d'avoir critiqué l'armée, puisqu'il est inculpé pour tentative de démoraliser l'armée. Il s'en est pris, par exemple, dans l'une de ses émissions, au chef d'état-major des armées. Et pourtant, on sait bien qu'au Mali, la grande majorité de la population critique l'armée malienne. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, si mes souvenirs sont bons, le ministre de la Défense a même été limogé face à la multiplication des attaques dans le centre du pays. Alors, est-ce qu'il ne dit pas, finalement, dans ses critiques, tout haut ce que la population pense ?
Absolument, et c'est ce qui a provoqué sa popularité. Donc quand il a été arrêté, la plupart des gens ont pensé qu'on voulait museler leur porte-voix. Et c'est dommage parce que, comme je l'ai dit, à cause de la communication gouvernementale qui est incroyablement difficile. On ne dit pas, ni le Premier ministre, ni le Président de la République ne prennent la parole pour évoquer les sujets qui sont d'intérêt général, d'intérêt national. Et donc Rasbat a pris cette place-là et il dit les choses ouvertement et c'est ce qui a plu, son langage a plu, mais malheureusement, comme je l'ai dit, il a dérapé et c'est peut-être là. Mais on a laissé faire, hein. Dès le départ, on aurait dû le rappeler, alors lui dire attention, il y a la liberté d'expression, mais tu dépasses les bornes.
Bon, en tout cas, pour l'instant, il a le droit de circuler librement. On attend la suite évidemment de son inculpation. On suivra évidemment ce dossier de près. En tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de monde devant le tribunal le mois dernier pour le soutenir juste après son arrestation. Il est libre de ses mouvements, mais il n'a pas le droit pour l'instant de reprendre donc son émission de radio. Merci Ousmane de nous avoir interpellé sur cette actualité. Le coup de gueule maintenant de Christine. Bonjour Christine.
Bonjour Juan, merci RFI.
Bah, je vous en prie, merci de nous appeler, vous êtes en région.
C'est un champ très, très vaste,
oui.
Élargit nos centres d'intérêt.
Bah, écoutez, merci de nous écouter, vous nous appelez de la région parisienne et vous avez un coup de gueule après l'annonce de la fermeture en France du site historique d'Alstom à Belfort. Sur les 480 salariés, 400 seront transférés vers les autres sites du constructeur ferroviaire, ce qui a suscité un vrai débat politique ici en France et vous êtes choqué. Non seulement par l'attitude du gouvernement, mais aussi par le comportement du chef de l'État, François Hollande.
Et en effet, puisque le même jour, j'ai entendu sur RFI que François Hollande inaugurait une usine d'Airbus hélicoptère à Brașov, en Roumanie, pour la bonne raison que la fiscalité y est avantageuse, 16%, et que les salaires sont tellement peu élevés qu'ils sont même inférieurs aux salaires chinois. Alors, effectivement, ce pays est très compétitif. Par ailleurs, j'apprenais que l'usine d'Alstom de Belfort allait être fermée et que le gouvernement découvrait cette nouvelle. C'est un peu surprenant. Le gouvernement siège aux commissions de marché, au conseil d'administration de la SNCF et de la RATP, qui sont bien entendu les gros clients d'Alstom.
Et puis l'État français dispose de 20% du capital d'Alstom, donc il est au conseil d'administration.
Exactement. Voilà. Donc il était parfaitement au courant des difficultés d'Alstom. Pendant des années, on a misé sur le TGV, on a laissé les autres réseaux s'écrouler. Mmh. Et maintenant, la SNCF se met à mettre des cars sur les lignes qui sont trop déficitaires.
Ouais.
Elle se tire donc
une balle. Mais simplement, le site de Belfort, excusez-moi, fabrique des motrices TGV et des locomotives de fret. Et on sait bien que le fret aujourd'hui est un secteur en difficulté. Donc les commandes baissent. Donc s'il n'y a pas de commandes, qu'est-ce qu'on fait ?
Ça fait des années qu'on dit qu'on développe le fret, qu'on annonce que le fret va émerger. Le nombre de camions, apparemment, on n'a rien fait pour limiter ou taxer les camions qui démolissent nos routes. Une taxe avait été envisagée sur les camions qui fréquentent nos routes.
Tout à fait.
Ça n'a jamais été mis en place.
Mmh. Ça, j'en sais plus.
Donc,
mais effectivement, donc vous dites en substance que le gouvernement est au final responsable de la fermeture probable du site de Belfort. Le gouvernement n'a pas su anticiper. En tout cas, hier, le porte-parole du gouvernement a annoncé que des solutions seront présentées dans les prochains jours. C'est ce qu'a dit hier Stéphane Le Foll. Christine, merci de nous avoir appelé. Bonne journée en région parisienne. On va terminer avec la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Voilà un sujet qui a suscité pas mal de réactions au Standard ces derniers jours. Sur place, le gouvernement a décidé de rendre obligatoires les cours du mercredi matin à l'école primaire et au secondaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les élèves avaient cours lundi, mardi, jeudi et vendredi. La ministre a dit, c'en est fini. Le mercredi matin, les élèves iront en cours. Les cours seront gratuits. Les enseignants, eux, sont vent debout. Et d'ailleurs, ils appellent à boycotter les cours tous les mercredis matins. D'ailleurs, mercredi dernier, la plupart des enseignants n'étaient pas dans les établissements scolaires. Bonjour Loïc.
Bonjour Ron, bonjour RFC.
Vous nous appelez d'Abidjan et vous êtes scandalisé par l'attitude des enseignants.
Je suis très scandalisé et indigné par l'attitude des enseignants. Dans la mesure où ils n'ont pas de raison valable qui suscite cette motion de grève. On entend dire que non, les enfants doivent se reposer mercredi. Mais attendez, les mercredis, là, quels sont les instituteurs qui convoquent les enfants à l'école pour des cours supplémentaires? Et à raison de 200 francs par tête. Alors, on ne peut pas dire que les enfants doivent se reposer et en même temps, ces mercredis-là, vous les récupérez dans la demi-journée et vous les soutirez 100 francs à 200 francs selon l'établissement, selon la commune, et selon la ville en Côte d'Ivoire.
Oui.
Moi, je comprends plus.
C'est vrai que c'est un secret pour personne. On sait bien que le mercredi matin, traditionnellement, les enseignants demandent aux élèves de venir en classe malgré tout pour rattraper des cours. Ce sont des cours de soutien, mais en contrepartie d'argent. Donc effectivement, là, lorsque la ministre dit le mercredi matin, il y aura cours obligatoires et des cours gratuits, c'est un manque à gagner pour les enseignants.
Effectivement. Et ils ont leur seconde raison où ils disent que non, ils n'ont pas été associés à cette prise de décision. Mais Madame la ministre l'a dit la dernière fois. Depuis le mois d'avril, ils ont été associés. Donc, en quelque sorte, ils sont presque égoïstes, excusez-moi du terme. C'est leur manque à gagner qu'ils ont les mercredis, que peut-être qu'ils n'auront plus. Alors, c'est ce qui les fait monter sur les grands chevaux. Mais qu'ils pensent aux tout petits. Tout le monde n'a pas les moyens. On est en train de dire l'école gratuite. L'État fait ses moyens, l'État met tous les moyens à disposition pour que la gratuité de l'école soit effective depuis le bas âge. Mais vous venez en contrepartie demander 200 francs encore, et c'est pas toutes les familles n'ont pas 200 francs
on a au Standard, on n'a pas le temps de le prendre malheureusement, Alama de Boisquet, qui est parent d'élèves et qui salue évidemment la décision du gouvernement en disant « moi j'ai plusieurs enfants, et effectivement, il a 4 enfants, et effectivement, tous les mercredis matin, il était obligé de payer 200 francs CFA par enfant pour des cours de rattrapage ». Donc voilà, ça fait des économies évidemment pour les familles. Merci à vous tous de votre fidélité, merci Loïc à vous de nous avoir interpellés donc sur cette rentrée des classes et sur ce boycott des enseignants le mercredi matin. On sera de retour lundi avec vos questions à la rédaction. Et puis nous parlerons évidemment lundi de la situation au Gabon. On attend dans les prochaines heures le verdict de la Cour constitutionnelle.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent.